Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, vous avez droit à la deuxième partie de notre interview avec Marc Angelo, dans laquelle on va parler encore de NFT, mais cette fois-ci, on va parler d'arbres, donc NFTs. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une excellente écoute et comme à l'habitude, on n'est pas des conseillers financiers et rien de ce qui est dit, interprété ou quoi que ce soit sur le podcast doit être interprété comme un conseil financier ou vu comme un conseil financier. Donc, c'est simplement des idées et des opinions personnelles. Le trading, c'est risqué. Donc, quand on parle de risque, on parle de potentiel gain, mais également potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours risquer de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et encore une fois, on n'est pas des conseillers financiers. Donc, sur ce, bonne écoute pour la deuxième partie du podcast de notre interview avec Marc Angelo.
Prends ce concept-là et fais l'expansion. OK? Mettons que toi, tu es passionné de fruits et légumes organiques et toi, tu veux accès à une récolte qui est encore là, qui se produit en ce moment, mais tu veux te lancer à être fermier en pommes.
Okay. Ouais, puis en plus, tu sais ce que tu manges, tu sais d'où ça vient, parce que de ce temps-ci, tu manges dans une pomme et puis tu viens d'avaler du cyanure presque, parce que tout
fou,
le bordel qui met.
C'est dégueulasse.
C'est chaud. Absolument. Non, là, pense à ça. Faut penser que quand tu plantes un arbre fruitier, mettons qu'il y a un an ou deux ans, faut attendre 6-8 ans avant que tu aies ta première pomme. Parce que ces pommiers-là prennent du temps. OK. Là, le pommier a une valeur pour plusieurs raisons. Premièrement, beauté. Bon, dans ta cour, t'as une belle arbre fruitier qui fait des beaux fleurs en mai, des enfants de même. C'est beau, OK? Deuxièmement, t'as une récolte. À un point, tu vas avoir des pommes. Et tu vas avoir des pommes à vie, dans un sens. Si tu plantes une coupe de pommiers, là, t'as des pommes plus que tu veux, va vouloir manger à vie, dans un sens. Mais t'as aussi un revenu fermier. Tu peux vendre ces pommes-là, tu peux faire des affaires. Mais t'as aussi les crédits CO2. Et là, faut penser que ici en 2023, le prix d'une tonne de carbon est, je pense, à 65 $ canadiens. Mais d'ici à 2030, le gouvernement pense que ça va monter jusqu'à 170 $170 per carbon ton. Alors, si tu t'investis maintenant à planter des arbres, ces arbres-là, si tu peux géolocaliser ces arbres-là, prouver la date que tu les as plantés, l'année qu'ils ont, et dans un sens, estimer cet arbre-là a été planté en 2012, à 11 ans, cet arbre-là va sequester, va prendre le carbone de l'air à tel rythme par année. Alors, tu peux prouver que tu l'as planté, tu peux prouver qu'il est là, tu peux prouver qu'un arbre de tel âge va prendre ça. Alors, toi, tu vas devenir le bénéficiaire de ces crédits-là, tu comprends? Le système de carbon tax va venir. Il est déjà, ça existe, on paye déjà ces carbon taxes-là. Mais qui va recevoir ces carbon taxes-là? C'est les gens qui vont planter des arbres. Là, faut penser que si j'achète un NFT, mettons, je vous lance l'idée, OK? Un NFT. Je te vends un NFT qui est un arbre fruitier pommier. Mais là, je plante l'arbre à ton nom. Ou que ce soit sur ton terrain, non, mon terrain, whatever, c'est intéressant de penser. Mais là, en achetant le NFT, tu as acheté à un prix qui est le prix du moment pour cet arbre-là, pour le planter, pour prendre soin pendant, mettons, sa vie. Au moins 10 ans avant que l'arbre est mature et t'as moins à faire, mettons, tu comprends? Il y a toujours de quoi, mais si t'achètes ce NFT-là en ce moment, je te donne accès à tous les autres arbres fruitiers qui sont déjà matures, qui ont déjà des pommes. Et toi, t'as accès à cette récolte. T'as fait un investissement que tu peux pas faire aujourd'hui, à avoir des fruits aujourd'hui, mais t'as accès aux bénéfices aujourd'hui. Et il y a d'autres bénéfices qu'on pense ne sont pas réels en ce moment, mais tu fais le calcul, à $170 a ton, OK? Mettons un arbre fruitier, et je vais dire, un arbre fruitier, mettons, va prendre un... in 40 years, it'll take one carbon ton. Mettons que c'est ça l'idée. Et pour acheter cet arbre-là, mettons, maintenant, si tu achètes et tu le mets dans ta cour, si tu achètes un garden center, right? Tu vas payer au moins, je sais pas, $50, OK? Si tu achètes d'un fermier, puis tu achètes grosse quantité, tu peux acheter cette même arbre-là pour, mettons, 12$, 15$, 20$. OK. Tu nous payes 50$ pour planter l'arbre. Moi, je l'achète pour 25, mettons. Moi, j'ai une marge, j'ai l'argent pour tout faire. J'ai l'arbre qui est sur la propriété comme telle. Je te donne accès à les pommes des enfants même qui ne me coûtent rien parce que j'ai déjà les pommiers. C'est comme une pré-vente de ces pommes-là. Parce que de toute façon, toi, tu vas venir les récolter ou je peux t'envoyer la récolte pour un prix juste pour payer les frais de livraison, mettons, là-dessus. Mais si un arbre va prendre un carbon ton dans sa vie, t'as acheté de quoi pour 170$ en 2030 pour 50$ aujourd'hui. Et t'as accès aux pommes. Alors, t'as une garantie que les taxes, the carbon taxes, vont monter. Ça, on le sait, ça va monter. Faut que ça monte dans un sens. Si tu crois vraiment ou que ça soit vraiment de mettre les coûts à la pollution, c'est vraiment la solution pour diminuer la pollution. Je vois pas, I'm not going to argue one way or the other. Ça peut fonctionner.
Dans tous les cas, de toute façon, c'est des taxes pour le gouvernement.
Absolument. Mais si toi, tu achètes ces crédits-là en ce moment, tu vas les acheter pour beaucoup moins cher today ou aujourd'hui que dans le futur.
Mais oui.
Parce qu'une fois que ce système-là est bâti, mais tout le monde va vouloir planter ces arbres-là. Et le prix de ces arbres-là, parce qu'il y a de moins en moins de fermiers, moins en moins de personnes qui plantent ces arbres-là. Et il y a de plus en plus de demandes pour ces arbres-là.
Alors,
penser à long terme. Être fermier, c'est de penser à long terme. Être fermier, c'est pas nécessairement de penser juste à la récolte de cette année, c'est de penser à la vitalité du sol. C'est à penser à la valeur de la ferme comme telle et de ce que ça produit pour tout le monde, non seulement toi, mais la communauté. Et ça bâtit la communauté. Les gens aiment des fermiers, les gens aiment des fermes, ils aiment savoir où leur production vient. Alors, d'après moi, on est dans un moment où de plus en plus la nourriture all natural, organique, de qui parvient d'ici, mettons, va monter en prix. Les prix, les carbon tax vont monter et à chaque cent qu'on ajoute ou chaque dollar qu'on ajoute au gaz, ça va monter en triple, quadruple sur les prix de nourriture. Alors, on sait très, 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 très bien que la nourriture va continuer à monter, même si les autres prix de bois ou d'autres accès au métal, des enfants de même, vont peut-être, tu sais, ils vont fluctuer avec la récession. Tout le monde mange en tout temps. Et on est de plus en plus de gens au monde. Il y a de plus en plus de problèmes pour pousser cette nourriture-là au monde. Et là, tu penses que les carbon tax vont monter de plus en plus en plus. Mais là, tu serais fou à pas acheter ces cartes. C'est non seulement acheter les crédits comme tu t'achètes quand, mettons, tu peux acheter un billet d'avion, puis tu peux payer pour faire que, le CO2 de ton billet peut être planté à quelque part que tu n'as jamais accès. Là, tu as accès à un arbre, tu as accès à une récolte sans que ce soit juste de ton arbre directement, mais je peux prouver en vendant le NFT et en faisant la géolocalisation de ton arbre, je peux prouver quand j'ai planté, qu'est-ce que j'ai planté, quand je l'ai planté et à quel âge cet arbre-là a. Et je peux enregistrer cette base de données au gouvernement quand moi je peux recevoir ces taxes de crédit d'impôt. Tu comprends? Alors, il y a des pensées. Ce système-là n'existe pas en ce moment. Mais je te le dis, moi, je suis sûr que ça va devenir... vers ça.
Et c'est fou parce que si tu regardes Bill Gates, depuis 2017, 2018, quelque chose comme ça, c'est la personne aux États-Unis qui est en train d'acheter le plus de terrain.
Je pensais au monde.
Ouais, sûrement au monde même. De terrain.
De terres fermières.
Oui. De terres agricoles.
Absolument.
Genre, le gars est en train de own presque les États-Unis au complet en terres agricoles.
La meilleure façon de capturer du carbone, c'est de restaurer le premier 6 pouces de terre. Parce que le sol va garder de le charbon. C'est pas le charbon, excuse. Carbon is in French.
CO2.
C'est le sol qu'il faut générer. Mais à chaque fois qu'on fait une récolte, les plantes vont prendre ce CO2-là, mais c'est quand on récolte, puis on laisse la terre sans ces plantes-là, mais on remet ce CO2-là dans le système. Mais quand tu plantes de quoi qui reste, comme un arbre fruitier, comme des bleuetiers, comme des fraises, comme n'importe quoi, mais à bout de ligne, il y a une capture de ce CO2-là à long terme. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de raisons, d'après moi, pour que le fait que les terres agricoles vont avoir une valeur incroyable et personne ne va y avoir accès. Parce que les terres agricoles, de la façon que c'est vendu maintenant et la façon qu'on a des fermes maintenant, tu peux pas avoir. Il y a très peu de terres qui ont moins de 10 acres. Et c'est cher d'acheter une terre à grosse échelle. Et les réglementations, moins ici au Québec, c'est que si tu as une ferme, puis tu as une terre agricole et une autre terre agricole, et ils se touchent tous, tu peux pas les séparer. Il faut vendre la ferme au complet ou la garder complet parce qu'ils ont des lois qui s'appellent des terres contiguës. Alors, les fermes deviennent de plus en plus gros et la moyenne d'une ferme pour acheter une ferme aujourd'hui au Québec est 3 millions. Mmh. Alors, d'avoir accès à être capable de rentrer dans cette game-là va être impossible. Mais si on adopte la technologie de NFTs, de crypto, blockchain, c'est vraiment la blockchain qui est là, smart contracts, c'est ça qui va donner accès aux gens qui n'ont pas cette terre-là, mais qui ont un condo à Montréal, qui ont une vie normale, mais qui veulent investir dans de quoi, non seulement pour grandir leur argent, mais aussi pour leur santé, aussi pour leur communauté, et aussi pour avoir des crédits de CO2, d'après moi. Et je te dis que ça, ce système-là n'existe pas en ce moment. Mais le système de les taxes se payent. Mais à un point, les compagnies vont commencer à s'échanger ces crédits-là. Et qui va être les personnes qui créent ces crédits-là? Où est-ce qu'on va trouver ces crédits-là? Parce que les crédits doivent se faire à quelque part. C'est pas inventé, ces crédits-là. Dans un sens que c'est les gens avec des arbres sur leur terrain qui vont bénéficier. Mais tout le monde qui achète un condo qui n'est pas propriétaire d'un terrain va pas avoir accès. Et de plus en plus de gens dans le monde vivent dans des villes qui n'ont pas accès à des terrains. Mmh. Parce qu'ils vivent dans des complexes. Ils vivent dans des condos. Ils vivent dans des édifices à grosse échelle. Alors, on va voir un renouvellement de la puissance des fermiers, d'après moi. Mais le problème, c'est que c'est très, 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 très cher à acheter une ferme, à runner une ferme et à commencer une ferme. Et c'est une production, c'est un cheminement qui est très dur à rentrer. Ça prend du mentorat, ça prend du monde qui savent quoi faire. Et d'après moi, il y a une opportunité pour les fermes qui sont comme la nôtre. Alors, c'est pas parfait. Ce qu'on fait n'est pas parfait. Ce que je vous compte n'est pas... c'est bien pensé dans un sens, mais il y a comme des affaires que je veux repenser ou je veux m'essayer. Alors, j'ai commencé avec l'ail comme tel. On a vendu 25 rangées à 3 personnes qui sont vraiment des amis. C'est pas vendu publiquement. C'est vendu vraiment word to mouth avec des gens. Et ce n'est pas un investissement comme tel. C'est de l'achat de l'ail. Mais... en achetant cette aille-là, je vais faire en sorte que ton investissement va grandir non seulement dans ton compte de banque, mettons à long terme, mais quite literally. Ça va grandir, ça va pousser dans la terre comme ça. Et ça rétablit cette terre-là, ça peut bâtir une communauté de fermiers aussi.
Puis tu as dit justement avec cette aille que tu voudrais faire éventuellement comme potentiellement un genre de liquidity pool. Puis
oui.
De là, ça amène, tu disais justement, un genre de banque.
Oui.
Sauf que là, ce que tu échanges dans cette banque-là, c'est pas de l'argent, c'est de l'ail.
Mais c'est de l'ail, c'est des pommes, exact. C'est du CO2.
Ce qui fait en sorte que c'est légal, parce que tu pourrais pas... Oublie, si tu essaies de faire une banque maintenant, tu vas te faire...
Non, mais je te vends pas,
Non, mais c'est insane, parce qu'on s'en fout ce qu'on échange. On s'en fout si on échange de l'ail ou des billets ou des cartes à jouer. Je veux dire, ton dollar canadien, il vaut pas plus, il vaut moins... Ça vaut même pas de l'ail,
mais
c'est du
papier. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je te... Si je le faisais avec n'importe quoi qui n'était pas une production agricole...
Ah ouais, oublie.
Non, mais à chaque fois que je te le vends, faut que je te charge les taxes. 15%, 15%, 20%. Alors, je te prends un NFT, j'achète les NFT de Adidas, je te le vends. À un point, le gouvernement va dire, OK, ouais, toi, t'as vendu, que ce soit Polygon, n'importe quoi, je m'en fous, t'as vendu de un à l'autre, je prends 15%.
Mais est-ce que là, en vendant un NFT d'un un à l'autre, mais que c'est un NFT qui est relié à de la production agricole,
tu ne vends pas l'NFT, tu te vends l'ail, tu vends la production.
Ah, tu vends la production et en vendant la production, tu reçois le NFT.
Et toi, t'es le fermier. Okay, ouais. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas parfait. Ça va, à un point, ça va devenir tellement gros qu'on va avoir une précédente, sûrement un jugement qui va se faire que si ce que je fais est réellement bien fait du côté des taxes. Mais quand je parle à mon père, qui est avocat, tax lawyer, quand on pense à ça, c'est de quoi qui est très intéressant. Et c'est quand toi, t'es fermier et tu vends ta production, que toi, tu peux prouver que tu as acheté, tu as investi, mais c'est à toi. Il n'y a pas personne... OK, mettons que j'ai un tracteur et le tracteur par lui-même va... Et je suis le propriétaire du tracteur. Le tracteur par lui-même va aller sur les rangs, planter du maïs soya, elle va récolter ce maïs soya, elle va le ramener chez nous, puis moi, je vais vendre ce maïs soya-là. Tu comprends? Mais si je suis le producteur, le propriétaire de ce tracteur-là, je suis fermier. Même si le tracteur se conduit par lui-même. Tu peux être fermier sans nécessairement être dans le champ. Si tu payes des Mexicains à venir faire ta récolte, faire le tout, tu es toujours le fermier. Parce que tu es le propriétaire de la business, tu es la personne physique qui s'appelle Marcangelo, n'importe quoi, qui est le fermier.
J'adore.
Alors, tu sais, je joue dans un monde qui est à long terme, qui est différent. Je sais que je promouvois des concepts qui sont un peu alternative, mettons, là. Mais en même temps, je pense que c'est...
Ça fait du sens. Pour moi.
Pourquoi? Et au pays des cas,
ça
au
fait
pays
juste
des cas,
du sens pour les gens qui sont trop fermés d'esprit, qui comprennent pas comment ça fonctionne.
Moi, je veux pas ces gens-là. Au pays des cas, on a une belle ail, on a des belles pommes. Au pire des cas, on a une production qu'on peut revendre qui a une valeur, that's it. Et cette valeur-là, si je le pousse dans le futur à chaque année, je gagne les inflations à chaque année aussi. Et c'est pas juste les inflations, mais c'est l'inflation sur la nourriture qui va, d'après moi, remonter plus vite que n'importe quoi autre dans dans la vie, parce qu'il y a de moins en moins de fermiers, il y a de moins en moins de gens qui savent comment faire.
La nourriture.
Et à 54 ans, c'est 54 ans, c'est la moyenne des fermiers. Alors, il y a 50% des gens qui sont plus âgés que 54 ans qui sont fermiers en ce moment. Ils vont tous vendre leur terre agricole. Mais le problème, c'est que qui va acheter ces terres-là à une moyenne de 3 millions? Qui va acheter une ferme qui ne sait pas comment être fermier, qui n'a pas... ça va passer de génération à génération, mais ces terres-là vont commencer à se vendre.
Les générations en veulent de moins en moins, ouais, parce que ça. La preuve, moins de, tu l'as dit, ceux qui sont en dessous de 35 ans...
Alors, il va avoir d'après moi, il va avoir un crisis dans leur sens. Et ce qui achète ces terres-là en ce moment, c'est ici au Québec et au Canada, c'est du monde qui parviennent d'autres pays.
En fait, si tu regardes l'histoire, la roue tourne. Les gens sont partis des fermes pour aller vers les villes et les gens vont retourner des villes pour aller faire les fermes.
Absolument. Et c'est les Bill Gates du monde.
Incroyable.
Et c'est les BlackRock, Vanguard du monde qui vont acheter ces terres-là parce qu'ils vont voir que c'est des banques de CO2.
Monopole.
C'est des banques de CO2.
Pour clôturer l'épisode, est-ce que tu auras un conseil?
On clôture déjà.
Est-ce que tu auras un conseil à partager avec les gens qui sont en train d'écouter en ce moment?
D'après moi, c'est bon. Moi, je dirais que you know, souvent les gens pensent en, même des traders, mettons, vont passer à, et on parlait de ça juste avant qu'on commence le tournage, ils vont penser dans un sens à, OK, je vais mettre 1% de mon portfolio en Tesla ou en this, en that, en real estate, en bonds, n'importe quoi. OK, bon. Moi, je pense à long terme d'une autre façon. Je vais mettre 1% de mes revenus cette année en fraises. Mais pas en fraises à acheter des fraises, mais à acheter des plantes qui vont faire des fraises à long terme. Et si je suis capable de penser que le payout va être plus long, plus long, plus long, mais moi, je prends de l'argent que j'ai en ce moment, je déduis les dépenses de mes taxes en ce moment, alors ce qui est il y a des subventionnés dans un sens parce que je serais dans les high income tax bracket à 50% dans un sens. Je peux aller chercher des subventions pour planter ces fraises-là peut-être à 50%. Si je fais, parce que quand tu es fermier, tu peux avoir accès à beaucoup, beaucoup d'argent à faire tes plantations, à faire du drainage de ton terrain, à bâtir des serres. Si je bâtis une serre à 4 saisons, je peux avoir 50% de mes dépenses repayées par le gouvernement. Et si je sauve
50%... 50% de tes dépenses repayées, t'as dit.
Repayées. Alors, faut payer la
pas
serre.
Pas déduit de tes impôts,
non.
Repayer.
Ils vont te repayer à 50%. Alors, si je bâtis une serre de 100 000, je vais revoir 50%.
Puis l'autre 50 000, ça, c'est déductible de la dépense.
Alors, qui paye pour la salle? Alors, il faut penser que si... Je pense moins à comment je vais faire de l'argent. Je vais faire de l'argent à être entrepreneur, je vais faire de l'argent à créer de la valeur dans mon day-to-day. OK? Mais comment je vais sauver de l'argent? Comment je vais mettre de l'argent dans le futur pour des générations futures? Comment je vais faire une fiducie ou n'importe quoi pour passer cet argent-là sans les taxes? Comment je peux acheter des produits d'assurance vie que je peux payer maintenant avec ma compagnie, prendre cet argent-là, puis le mettre dans le futur, puis le passer aux autres? Mais moi, je pense « generational wealth » en anglais. Right? Je pense à des générations futures. J'ai une mentalité à long terme, mais il y a des payouts à court terme aussi. Et il y a des bénéfices à court terme. Et pour moi, ma nourriture coûte de moins en moins. Tout le monde paye de plus en plus. Ouais. Mais là, prends ce concept-là, fais l'expansion. Mettons que je faisais des NFT de panneaux solaires. Mettons que je faisais des NFT de n'importe quoi qui a une valeur que je sais que ces prix-là vont continuer à monter. Je vais prendre de l'argent maintenant, déduire mes impôts, prendre les dépenses et je vais me mettre dans quoi qui va devenir de plus en plus valuable dans le temps.
Puis en plus de ça, même si les prix explosent avec les NFT fractionnables, tout ce que tu pourras faire éventuellement, c'est créer des tokens qui sont reliés aux NFT. So, même si ton NFT maintenant vaut 1 million, c'est pas grave parce que tu fais des NFT fractionnables et là tout le monde peut acheter 1% de ce NFT-là, fait que tout le monde est capable de mettre exemple.
Exactement. Hey, je pourrais faire la même affaire je peux faire du crowdsourcing ou crowdfunding dans un sens pour n'importe quel projet. Tu sais, je peux faire du crowdfunding pour bâtir une serre de 100 000. Tout le monde me donne 1 000$, 100 personnes me donnent 1 000$, je mets l'argent, je fais des dépenses, je sais que je suis approuvé à ce moment-là, avant que je bâtisse la serre, pour un 50% de réduction, je prends de remboursement de cet argent-là, je prends le 50%, je repaye tous les gens qui m'ont donné le 100 000 au début, je donne un pourcentage à eux, tout le monde gagne, payé par le gouvernement. Alors, il y a des affaires intéressantes qu'on peut commencer à faire ou à parler. Et d'explorer ça, c'est intéressant. Alors, pour répondre à ta question, pense à long terme. Pense différemment. Non, mais c'est pense à long terme. Si tu peux penser à long terme, tu vas gagner une vie, non seulement pour toi, mais pour les générations de futur. Et si tu penses un peu alternative, si tu penses un peu moins juste que comment je peux faire de l'argent sur ce trade-là ou sur direct à faire je fais ça, je gagne ça. Si tu peux penser à 2, 3, 4, 10 étapes plus loin, mais tu vas gagner. Et dans n'importe quoi que tu penses un peu plus long terme, que tu vois les moves un peu plus longs, comme en chess or whatever, n'importe quoi, là, tu vas gagner.
C'est quoi le scénario le moins optimal pour toi, par exemple? Ça serait que tu aies une mauvaise saison, une mauvaise récolte cette saison-là?
Oui, il y a des assurances que tu peux acheter sur n'importe quoi. Alors, okay. je peux backer la récolte par une assurance. Ça, c'est une affaire qui est très réelle. L'autre affaire, c'est que tout le monde veut vendre en même temps. C'est comme n'importe quoi, comme un fund.
OK, offre et demande.
C'est ça. Si un bank run, dans un sens, ça peut devenir un problème, dans un sens, à n'importe quel moment. Mais ce qui est là, c'est que je peux pas te vendre ton aide direct en ce moment parce que, mettons que c'est décembre, mais là, il n'a pas poussé encore. Mais tu as toujours, toi, comme... comme fermier à bout de ligne, parce que t'es pas juste investisseur, comme fermier.
C'est comme s'il manque de liquidité, mais c'est l'ail.
Ouais, mais tu peux revendre cette ail ou cette rangée d'ail-là à n'importe quel prix sur le marché public ou marché privé, que ce soit un autre fermier ou un autre membre de notre ferme ou que ce soit sur OpenSea à n'importe qui veut investir. Alors, il y a une liquidité que toi, tu peux sortir et rentrer quand tu veux et en même temps, il y a un côté réel que, bon, l'ail se récolte en juillet, ça se vend, mettons, en août ou plus loin, et ça se garde quand même, ou ça se replante.
Pourquoi je te demandais, c'est parce que de ce temps-ci, je suis vraiment obsédé avec comment est-ce que je peux faire 10 $ mm-hmm. 1000 $ 100 millions de dollars à court, moyen, long terme, avec aucun risque. Parce que tout le monde se dit tout le temps, et même moi, au début, je disais tout le temps aux gens, non, il y a toujours un risque. Mais tu sais quoi? Plus je rentre dans la game, plus je réalise que it's fucking bullshit. Il y a des gens qui sont en train de faire des milliards avec aucun risque, comme legit, comme aucun risque.
C'est juste que le
cerveau de l'humain, il est trop fermé. Même au début, quand tu investis, tu entends « non, mais il faut prendre des risques pour... ». Mais c'est faux. Comme oui, le risque est là, mais tu peux le contrôler. Je vais faire un exemple bizarre là, mais c'est comme si ta copine elle prend la pilule, tu mets un condom en même temps, puis en premier tu prends une pilule du lendemain. Est-ce que tu pourrais tomber enceinte? Oui, mais à quel point le risque est contrôlé? Et il y a des gens qui investissent comme ça avec.
Absolument.
J'ai adoré ton exemple.
Non, mais
je pense que t'as même pas réalisé l'exemple que tu viens de donner.
C'est
ça.
C'est un bon exemple, non? Contrôle du risque à 100%.
C'est comme il a choisi son exemple.
T'as tout le plaisir sans risque.
Ben, absolument. Il y a toujours un risque dans n'importe quoi. T'sais, une façon de faire, c'est de dire bon, d'après moi, une terre agricole va toujours prendre une valeur. D'après moi.
Moi, tout ce que j'essaie de comprendre, c'est dans. Ça va même plus. On devrait arrêter le podcast parce que là, ça, c'est plus podcast. Là, c'est moi qui ce que j'essaie de comprendre, c'est parce que là, on a parlé des gains, tout ce qui est possible. Moi, j'adore ça, c'est parfait. Maintenant, je veux voir tous les risques parce que j'adore les risques, mais j'aime les.
Moi,
ce que. En tout cas, on parlera de ça hors podcast.
Mais je peux parler longtemps de ça. Mais il y a plusieurs façons que tu peux minimiser les risques. La meilleure façon au monde, on sait, c'est use other people's money.
Ouais. Est-ce que par exemple, absolument. Mais est-ce que par exemple, il y a des fruits ou des légumes qui poussent dans certaines conditions mieux que par exemple. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est exemple, cet été il pleut sa vie. Alors ce légume là pousse bien. Cet été il a fait super sec. Alors ce légume là pousse bien. Est-ce que c'est possible d'investir dans les deux légumes?
Absolument.
Comme ça si jamais il pleut, tu fais du cash. Si jamais il fait sec,
tu fais du cash. Mettons que c'est la prochaine étape de ce que je dois faire. Je dois commencer à planter des affaires qui dans une saison de sécheresse va gagner et une saison de beaucoup de pluie va gagner. Alors, faut commencer et c'est pour ça que je n'arrête pas nécessairement à Garlic NFT, mais je vais commencer à faire d'autres productions, d'autres affaires. Je pense que le gain
parce que là,
long terme, et c'est vraiment les taxes CO2. Les crédits de CO2 vont être très intéressants. Parce que l'arbre fait des... Mettons que cette année, on a eu un gel record le 18 mai, ce qui a fait que beaucoup de pommiers n'ont pas fait une production nécessairement de autant de pommes ou autant de fruits. En même temps, le CO2 va être... L'arbre vit. Alors, elle va prendre le CO2 de toute façon. Que puis qu'il y a une sécheresse. Là, c'est sûr qu'il y a une grosse sécheresse et il n'y a aucun puits, ça va être un problème. Mais ici au Canada, tu peux dire qu'il y a moins de risques parce qu'on a souvent de la pluie, on a beaucoup de soleil quand même. Tu sais, t'es protégé dans un sens. Ouais. C'est sûr qu'il n'y a jamais zéro risque. Mais pour enlever le risque encore, c'est pas de dire c'est juste celui-là, cet arbre-là, mais tu fais partie de tous les gens qui ont acheté les arbres en 2023. Et là, si un arbre ment, ben de toute façon, t'as fait partie du pool dans un sens. Le pool aide. Le pool est comme les
assurances. Ça vient mitiger le risque aussi.
Exactement. Comme de la même façon que les assurances fonctionnent, on fait la même affaire dans le fund comme tel. Le plus d'investisseurs, le plus de rangées, le plus d'arbres, le plus de whatever qu'on fait, le mieux que ça va être pour chaque investisseur individuel, incluant moi, parce que je suis un investisseur aussi.
Ouais. Ben c'est pour ça que je te posais la question, vraiment pour comprendre, parce que, tu sais, comme moi, je dis, je cherche zéro risque, je suis conscient que ça n'existe pas. T'sais, mais si je vise zéro risque,
oui,
eh ben alors comme ça, je peux trouver...
Il y a moins de faire. Il y a moins de faire.
Moi, mon but, c'est vraiment, je vise zéro risque, comme ça, finalement, ce que tu as, ben, c'est minime. Tu vois, c'est comme quand tu dis, vise la lune, comme ça, tu vas au moins aux étoiles. You know?
Absolument.
C'est le même.
Et il y a beaucoup de gains principe. Physiques qui peuvent se faire. Même tu sais, j'ai même pas parlé de ça, mais tu sais, en ce moment, on fait les rangées d'ail à la main. Dans le sens qu'on plante tout à la main. Mais si à un point j'ai assez d'investissement, boum, j'achète le tracteur et je plante l'air avec le tracteur, là, les gains sont infinis. Il y a des gains. Même si je gagne, si j'ai un gain de 10 % de temps ou je diminue mes coûts de 10 %, ben c'est tous les investisseurs qui vont gagner ce 10 %-là. Alors, il y a comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires qui peuvent se passer, qui vont être intéressantes, mais il faut penser que les gains vont être en sauvant des taxes, à mettre des dépenses complètement légales sur tes impôts. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres affaires et il y a beaucoup de outs qui sont intéressants. Il faut juste qu'un de ces outs-là fonctionne.
Mais de toute façon, le taxe et les impôts, c'est dans la règle de 3. Hein. La première règle, dépense moins. La deuxième règle, augmente tes revenus. La troisième règle, te fais pas défoncer par l'impôt. Genre, les trois règles de faire le plus d'argent par année, c'est augmente tes sources de revenus,
ouais.
Réduis tes dépenses, sauf sur les taxes.
Absolument.
C'est littéralement dans le trio genre ultime, ces avantages-là. On pourrait parler pendant longtemps. Ça m'amène à d'autres questions.
Grand merci, Marc, pour être venu sur notre podcast, sur cet épisode. On va... En fait, mettre tous les liens. on va mettre tous les liens pour Valhalla Movement et ce que Marc fait pour que vous pouvez en apprendre encore plus davantage. Merci encore d'être venu et on se voit sur le prochain épisode.
Merci.